Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dimitri Casali est l'invité de Franck Ferrand en ce deuxième jour de l'année. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une spéciale dédicace à tous les amoureux de l'histoire chronique, puisqu'en effet, j'ai invité Dimitri. Nous allons commencer par évoquer une figure à l'honneur en cette période de centenaire, celle du poilu dans les tranchées.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laurent sur l'origine de l'expression « tenir le haut du pavé ».
Eh bien avec plaisir. Pour le moment, place aux souvenirs de la Grande Guerre.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes le 22 avril 1915 sur le front de l'Isère, en avant de la ville d'Ypres en Belgique. Ypres, un nom évidemment entré dans l'histoire. C'est un point stratégique, vous savez, parce que Ypres protège les voies d'accès des ports de la mer du Nord. Alors, il y a déjà eu dans ce secteur des batailles quelques mois plus tôt, en octobre 1914, et dans les deux camps, les hommes ont finalement creusé le sol. Ils ont vu l'hiver arriver, ils vivent maintenant dans des tranchées, ils savent que de nouveaux combats sont imminents. On est passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position, et c'est là que la guerre s'est dans un premier temps stabilisée. Les soldats ont même entendu parler de l'utilisation probable de gaz toxique. Le 14 avril, un déserteur du 34e régiment de réserve allemand s'est rendu dans les lignes françaises et il a parlé. Et de quoi a-t-il parlé ? Bien d'une abondante émission de gaz toxique. Évidemment, aussitôt ça s'est su, la rumeur s'est répandue. Seulement, en dépit de ce renseignement, ou peut-être d'ailleurs à cause de ce renseignement, les services intéressés ont refusé de prendre l'avertissement au sérieux. Le 21 avril, il y a eu des bombardements, des tirs. L'après-midi, les chefs d'unité signalent une intervention imminente de l'armée allemande. La division française est sous les ordres du général Putz et elle est formée de deux brigades venues d'Afrique du Nord avec à gauche l'armée belge, ou plutôt ce qu'il reste de l'armée belge, et puis à sa droite l'armée britannique qu'on a souvent tendance à négliger et qui dans ce secteur a été absolument essentielle et qui comprend une division canadienne et deux divisions anglaises. En face, vous avez quatre divisions bavaroises. Donc, ce 22 avril 1915, il fait beau, on peut même dire qu'il fait presque chaud. Comme la veille, les raids de l'aviation allemande se poursuivent et redoublent. Les tirs reprennent sur Ypres alors que les alliés décident de procéder à une progression de quelques unités. Et puis plus rien. Vers 15h, un avion français en direction des lignes adverses essuie un feu très important, il fait demi-tour, les tirs se multiplient de chaque côté et puis de nouveau, le calme revient. Vous savez, c'est le lot des soldats qui se trouvent dans ces tranchées de première ligne. Puis vers 17h, la fusillade reprend et là, une vapeur s'élève au-dessus des lignes allemandes. Ce n'est pas une vapeur comme les autres. Voilà ce que nous dit le docteur Gagnère. Elle se transforme bientôt en une fumée épaisse et jaunâtre, haute de plusieurs mètres, qui, poussée par le vent, progresse vers les lignes françaises et anglaises sur une largeur de plus de 6 kilomètres. Les balles qui sifflent à leurs oreilles leur paraissent pourtant infiniment moins redoutables que cette masse cotonneuse, oppressante, en raison même de son caractère mystérieux et qui, prête à les submerger, n'est plus qu'à une distance de quelques dizaines de mètres. Vers 17h20, les premières vagues atteignent les avant-postes et là, on voit cette espèce de fumée qui s'infiltre partout. Les soldats ressentent une douleur aux yeux, de violentes irritations au nez, à la gorge. Presque aussitôt, nous dit Gagnère, une sensation d'étouffement les étreint, leur écrase la poitrine, les oblige à se plier en deux. Certains s'écroulent, la face violette, une écume rosâtre aux lèvres. Ils ne se relèveront plus. D'autres s'enfuient, oubliant toute discipline, le regard perdu, la capote enlevée ou largement ouverte, la cravate arrachée, inconscient du danger que leur font courir les éclatements d'obus de plus en plus rapprochés pourtant, soucieux seulement de retrouver un peu d'air et de pouvoir respirer à nouveau. Les premières lignes, puis les artilleurs, sont encerclés par ces gaz. Ils sont asphyxiés. Les soldats se bousculent, ils demandent à boire. Les soldats crachent du sang, demandent des représailles. Et les Allemands ont le nez et la bouche protégés par des masques, évidemment. Tout ça a été prévu. Au terme de la journée, donc de ce 22 avril, 5000 soldats français sont morts, presque tous à la suite d'œdèmes aigus du poumon. 15 000 hommes sont hors de combat. Et dans les jours suivants, les Allemands continuent à tirer des gaz. Du côté des Alliés, on se protège comme on peut avec des masques de fortune qui sont arrivés. On a surtout des mouchoirs, des serviettes. Certains mettent des chaussettes devant leur bouche et leur nez. On se protège avec des morceaux d'uniforme aussi. Les spécialistes ont reconnu que les fumées toxiques envoyées contre les soldats étaient des vapeurs de chlore. Alors on conseille aux soldats d'appliquer sur leur visage des linges trempés dans de l'eau ou de l'urine, l'urée pouvant être, il faut le savoir, un bon antidote. Le 26 avril, le canal de l'Isère est atteint par les soldats alliés. L'avancée continue dans les jours qui suivent. Les Allemands vont perdre la bataille. L'occupation de plusieurs tronçons de ces tranchées abandonnées par l'ennemi va révéler l'ampleur du dispositif mis en œuvre. Tous les 20 mètres environ avaient été placés des coffres couverts de sacs de pierre et contenant un certain nombre de cylindres d'acier pourvus à leur extrémité supérieure d'un robinet d'écoulement. Les cylindres d'un même coffre étaient reliés les uns aux autres par des tubes aboutissant à une canalisation unique qui montait le long du parapet et courait ensuite à angle droit au ras du sol sur une distance de 2 à 3 mètres. Il avait donc suffi, nous dit Paul Gagnaire, lorsque le vent s'était montré favorable, soit de 2, 3 à 8 mètres à la seconde, d'ouvrir les robinets de tous les coffres ainsi alignés pour que le chlore liquide, renfermé dans les cylindres, se trouvât libéré en masse sous la forme de jets gazeux progressant irrésistiblement vers l'adversaire. On dénombrera ainsi 5730 bouteilles et on estime à 78 tonnes la quantité totale de chlore gazeux déversé sur les armées alliées. Vous voyez que moi-même, ça m'empêche de respirer, de penser à tout ça. Il est bien loin le temps des conférences internationales de La Haye en 1899 et 1907 où l'Allemagne s'engageait pourtant à ne pas utiliser de gaz. Cette utilisation des gaz va devenir le symbole d'une guerre d'un nouveau genre, une guerre industrielle avec des armes particulièrement létales. Et cette utilisation, elle est sans doute, disons-le, la conséquence de la guerre de position. Les soldats s'attendaient à une guerre courte. Ils vont apprendre à vivre dans les tranchées. Ils vont apprendre à résister à tout, même au gaz.
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison et la fleur au canon, ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La 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 la. Je ne sens plus mes bras, tu tournes autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je ne suis qu'un soldat. La 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 la. Non, je ne reviendrai pas.
C'était Florent Pagny sur Europe 1 avec Le Soldat. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au souvenir de la Grande Guerre.
Puisque cette émission est la dernière de cette année du centenaire de 1914, il faut peut-être que nous revenions justement sur les conséquences générales de cette guerre de position. Rappelez-vous qu'à la fin de l'automne 14, le front occidental se stabilise sur près de 700 km de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Il ne va pas bouger avant mars 18, sauf c'est vrai en 1917 quand les Allemands se retirent de l'est de la Somme. Dès le 27 septembre 14, un soldat, il s'appelle Maurice Maréchal, constate dans une lettre l'absence de combat et de progression des soldats. Que c'est long, écrit-il, long, monotone et déprimant. Voilà 15 jours que nous restons sur place. En 1870, autant que je me rappelle, il y eut de formidables batailles où les armées se cognèrent vraiment avec acharnement. On marche la nuit, les mouvements se font au petit jour et au crépuscule, on a toujours l'air de se cacher. Voilà l'héroïsme de nos jours, se cacher le mieux possible. Au cours de l'année 1915, après les batailles d'Ypres dont je viens de parler, sur l'Isère également, l'armée allemande prend conscience de la difficulté de percer le front occidental et l'idée, ça va être d'attaquer en masse sur le point d'appui du front français, c'est-à-dire à Verdun. Si Verdun tombe, se disent les stratèges allemands, alors tout le front de Lorraine va s'écrouler et la route de Paris sera ouverte. En janvier 1916, Joffre, alerté par Gallieni, n'oublions jamais de le dire, Gallieni qui est ministre de la guerre à ce moment-là, Joffre envoie Édouard de Castelnau inspecter les défenses de Verdun. Une route à double sens et un parc de camions réunis à l'arrière sont à ce moment-là créés. Et quelques semaines plus tard, on est le 21 février 1916, on peut dire que c'est le début de ce qu'on appellera la bataille de Verdun, avec un nouveau sens sous le terme de bataille, puisque c'est en soi une campagne à elle toute seule. Cette bataille, en effet, comme on l'appelle, va durer 10 mois. 300 jours. Elle mobilise la quasi-totalité des régiments français. La plupart des divisions françaises participèrent à cette bataille, écrit Pierre Gaxotte, inondant de leur sang ce sol désormais sacré. On se battit pour une crête, pour la corne d'un bois, pour 100 mètres de tranchées, pour un ravin, pour les ruines d'un hameau. Et c'est une bataille terrible. Un des soldats, il s'appelle Gaston Biron, écrit dans une lettre du 18 avril 1916, il y en a tellement de ces lettres de poilus qu'avait si bien mise en scène Jean-Pierre Guénaud il y a quelques années. « Les 15 jours passés à Verdun, nous dit-il, nous ont plus fatigués et démoralisés que 6 mois de guerre de tranchées. » Dans le détail, cette bataille a mal commencé pour la France. Le 25 février, le fort de Douaumont est en effet pris par les Allemands qui ne sont à ce moment-là qu'à 5 km de Verdun. On va même évacuer les civils à Verdun, ce qu'on a parfois oublié. Le lendemain, 26 février, c'est Philippe Pétain qui prend le commandement de la bataille. Et entre le 27 février et le 6 mars, 190 000 hommes, 23 tonnes de matériel sont acheminés sur le front. Dans les mois qui suivent, l'avantage va tourner en faveur des Français. Les forts de Douaumont et de Vaux sont repris en octobre et en novembre. La bataille de Verdun, vous le savez, on l'a suffisamment dit et répété, mais on a toujours un peu du mal à visualiser ce que ça représente. Cette bataille va faire plus de 700 000 victimes disparues ou blessées, dont 362 000 soldats français. En parallèle à la bataille de Verdun, la bataille de la Somme commence de son côté en juillet 1916 avec là aussi un bilan très lourd, 20 000 soldats britanniques tués le premier jour. En 10 jours, les Français vont avancer de 8 km seulement et en tout, cette bataille de la Somme, elle va faire plus d'un million de victimes. En 1917, ce que Raymond Poincaré appelait l'année terrible, 1917, vous savez, il écrit ça dans ses mémoires, 250 000 Français seront tués lors de l'offensive du Chemin des Dames. offensive menée par Nivelles à partir du 16 avril. Et à la même période, ce sont les mutineries dont on parle tant depuis quelques années. Mais malgré cette série de batailles coûteuses en vie humaine, ce qui est incroyable, c'est que les soldats résistent. Verdun avait été un enfer, écrit Pierre Gaxotte, qu'on se représente le transport en camion sur la route unique, la relève en pleine nuit dans les tranchées bouleversées semées de cadavres, avec ses piétinements, ses lenteurs, le séjour dans les trous d'obus, l'enlisement dans la boue tenace, les attaques de l'ennemi, les lance-flammes, les gaz, le spectacle de tous les camarades broyés, hachés, enterrés, le bombardement continu, hallucinant, secouant les corps, mais l'espérance avait soutenu. C'est cet héroïsme, c'est cette résistance qui vont amener un des rescapés du conflit, l'écrivain Maurice Genevoix, l'auteur de Ceux de 14, à se demander en 1964, c'est-à-dire après 50 ans, s'il fallait ou non célébrer l'anniversaire de la guerre. Cette question, nous nous la posons, nous, à l'occasion du centenaire. Alors, le moins qu'on puisse dire est qu'on a répondu par l'affirmative, puisqu'évidemment, un très grand nombre de célébrations ont eu lieu pendant toute cette année. Et je pense que ça n'est pas fini, puisque les trois années qui viennent vont nous réserver encore un certain nombre d'anniversaires, évidemment, et d'évocations. Jusqu'où fallait-il célébrer ce qui a été une sorte d'apocalypse, une boucherie phénoménale? C'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour à la Grande Guerre et à ceux qui ont su nous en parler avec vous, Franck Ferrand.
On ne parle pas assez, me semble-t-il, de Maurice Genevoix, immense écrivain, et qui, dès le début, dès août 1914, va tenir des carnets. Et dans ses récits sont évoqués, alors là, oui, la boue, le froid, les maladies, la mort, le bruit, le manque de sommeil, la mauvaise nourriture et l'ennui, bien entendu. Pour Maurice Genevoix, comme pour ses camarades, écrire est une sorte de besoin, car les mobilisés prennent conscience que cette guerre va marquer une rupture. Ils sont convaincus, et quelque part au fond d'eux, ils espèrent que ce sera un total basculement du monde. Voilà ce qu'écrit le soldat Michel Taupiac dans une lettre du 2 mai 1915. « Je suis un de ces millions d'anonymes qui forment l'instrument pour forger une page sanglante de notre histoire. Cette époque sera bâtie avec beaucoup d'héroïsme, de tristesse et de lâcheté. » Voilà ce qu'écrit donc en 1964, c'est-à-dire 5 ans après le déclenchement de la guerre, Maurice Genevoix, je le cite. « Cette impulsion répondait au sentiment dont nous avions été saisis. À peine avions-nous pénétré dans le monde de la guerre vrai, aux premières pulsations du canon, aux premiers piaulements des balles, de participer sans merci à des événements démesurés, monstrueux, sans référence aucune à rien qui nous fût familier, réel pourtant, et dont les conséquences devaient être décisives pour l'avenir de l'humanité. Ce besoin d'écrire est aussi une manière de témoigner de la réalité des tranchées face à l'arrière, vous savez, face à la politique, face aux journalistes qui ne prennent pas toujours vraiment la mesure des faits. Edmond Vité écrit en 1916 « Le poilu, c'est celui qui écoute tout, qui juge, qui dira beaucoup de choses après la guerre. » Et je sens moi comme une forme presque de menaces dans cette phrase désespérée, ou pleine d'espoir, comme on voudra. Après la guerre, de nombreux soldats oublient ces carnets, mais le traumatisme revient au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il est définitivement impossible d'oublier le premier conflit. C'était une illusion, écrit Maurice Genevoix. 20 ans plus tard, elle devait sombrer devant le démenti tragique d'une nouvelle guerre universelle, venue des profondeurs du temps, par-delà un intervalle d'années brusquement aboli. Ce fut comme un puissant ressac qui rendait ces hommes à eux-mêmes, qui les ramenait vers leur vocation. Dès lors, de nouveaux témoignages vont apparaître, comme un besoin de laisser une trace pour l'éternité devant tant d'erreurs, de failles, devant aussi la montée du soir et pour eux le dernier silence. Ces témoins se sentaient obligés, écrit Genevoix, obligés de répondre de toutes les puissances de leur être à l'appel de ce qu'ils savaient être au-delà de leur vérité, la vérité. Voyez à quel point il a été grand et il a été fort, ce besoin de témoigner, même si certains, évidemment, et on peut les comprendre, sont restés en retrait. En l'été de 1914, les soldats ont vu toute une civilisation de proche en proche d'un bout du monde à l'autre. basculer dans une espèce de nuit sanglante, écrit Genevoix, une nuit chaotique dont on ne savait pas sur quel avenir elle se lèverait. On a préféré oublier qu'il s'était vu brusquement retranché de la communauté nationale, parqué dans une zone infernale où le froid, la boue, le soleil, les maisons, les arbres sous le ciel, l'air même qu'il respirait avait pris une réalité différente, insoupçonnée, assurément cruelle, qu'ils avaient dû faire l'apprentissage de métiers impitoyables, s'adapter à ses rigueurs, devenir, selon le mot de l'un d'entre eux, les moines d'un couvent nomade dont la règle était de souffrir. Pour Maurice Genevoix, célébrer la paix de 1918, beaucoup plus sans doute encore que le début de la guerre en 1914, célébrer cette paix avec ses médailles et ses honneurs, ce serait beaucoup trop facile. Il ne faut pas oublier les hommes partis dès 14, dit-il, qui ont combattu pendant plus de 4 ans et dont certains ne sont jamais revenus. Et ça, évidemment, ça nous justifie dans la démarche que nous avons menée pendant toute cette année, car évidemment qu'en 2018, on célébrera la paix, on parlera de tout ce que cette guerre a permis de changer. Mais pour le moment, en 14, en 15, en 16, en 17, c'est bien la souffrance et c'est bien le sacrifice et c'est bien le sens de ce sacrifice qui, me semble-t-il, doit être mis en avant. Je cite encore Maurice Genevoix, « Si les vieux survivants de 14, jetant un regard en arrière par-dessus ce demi-siècle, disait-il alors, il écrivait en 1964, revoient en cet anniversaire les jeunes hommes qu'ils ont été, leurs capotes bleues, leurs pantalons rouges, leurs lebelles et leurs baïonnettes, ces souvenirs de leur calvaire les envahissent avec tant de force qu'ils en sont de nouveau la proie. Et pourtant, le temps écoulé, en même temps que leurs vieux démons les délivrent de la révolte, de l'amertume et de la vanité, mais qu'on leur laisse au moins la certitude de n'avoir point failli à tout ce qu'on réclamait d'eux au plus ardent de leur vitalité, des événements dont ils n'étaient point responsables. » Bonjour Dimitri Casali.
Bonjour.
Ombres et lumières, contrastes, ambivalence de cette guerre, sacrifice évident et en même temps sans doute massacre. Il y a chez les poilus de 14 autant de victimes que de héros. Nous allons voir avec vous ce qu'il faut en penser.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est l'histoire de France qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Dimitri Casali, historien et directeur de collection pour la presse, spécialiste de l'enseignement de l'histoire, auteur de l'histoire de France de l'ombre à la lumière aux éditions Flammarion.
Vous avez, Dimitri Casali, sous-titré ce manuel illustré d'histoire de France, de l'ombre à la lumière. Il y a beaucoup de contrastes et vous avez essayé justement dans ce livre de ne pas donner un point de vue trop monolithique. Alors, revenons d'abord peut-être à cette affaire de 14. Certains disent, je le lis beaucoup en ce moment, qu'on a trop célébré 1914 et que cette année du centenaire, on en a peut-être un peu trop fait. Il me semble, moi, qu'on n'en fait jamais assez dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il vous en semble à vous ?
Vous avez tout à fait raison, parce que il faut d'abord comprendre que la guerre de 14-18 fut le plus grand, le calvaire de toute l'histoire de France, c'est-à-dire une boucherie absolument incroyable, à un moment précis où on assiste à une rupture fondamentale dans l'art de la guerre depuis 2000 ans. Donc tout est muté, basculé, bousculé et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre justement cette mutation de la guerre et des combats à cette époque-là. Et le problème c'est que le poilu est devenu, on a assisté à une victimisation du poilu uniquement alors qu'il y avait 2000 ans de pratiques guerrières auparavant qui sont totalement gommées et édulcorées aujourd'hui.
Je me rappelle moi étant enfant, avoir reçu dans nos classes d'école primaire puis de collège, etc., des poilus puisque, évidemment, ça ne rajeunit personne mais à l'époque, ils étaient encore là, ils pouvaient témoigner et nous raconter leur guerre de 14 et quand ils arrivaient dans les classes c'est vrai qu'ils nous disaient que c'était dur, qu'il y avait les rats, qu'ils avaient certains avaient même perdu l'usage d'un pied dans le froid, ils étaient au milieu des cadavres de leurs compagnons, etc. Ils nous racontaient ça, bien sûr. Ils nous disaient que ça avait été d'une dureté presque insoutenable et en même temps je ne les entendais pas se plaindre. Hein. C'est pour ça que c'est important ce que vous dites là. Ils avaient plutôt, eux, l'impression d'avoir été bien, d'avoir fait leur devoir, d'avoir bien travaillé. Ils n'étaient pas dans la jérémiade du tout, en fait.
Hein. Tout à fait. C'est un mot que j'aurais aimé entendre durant ces commémorations qu'on n'a absolument pas entendu. C'est le sens du devoir et la défense de la patrie. Ce sont deux mots qui n'ont jamais été prononcés pendant plus d'un an. Et je voudrais, moi, insister...
Ils ont été prononcés, mais peut-être pas suffisamment.
Pas suffisamment.
Disons,
oui. On a plutôt insisté sur les déserteurs, sur les fusillés, les 650 fusillés pour désertion. Ça, on a vraiment insisté, alors qu'on n'a jamais insisté sur les 1 385 000 morts qui ont fait leur devoir, qui se sont sacrifiés pour leur patrie, pour la défense de la France, parce qu'il faut rappeler que le territoire national était envahi, tout simplement. Et ça, c'est des choses essentielles qu'on ne rappelle jamais.
Alors justement, on va essayer d'expliquer où tous ces poilus sont allés chercher les ressources de cette espèce d'incroyable résistance, parce que c'est inouï de voir ça. Devant le déferlement, ils ont tenus. Ils étaient là, cramponnés, si je puis dire, à leur terre, à leur glaise, à leur tranchée. Ils n'ont pas bougé. Ce qui ne sera pas le cas, malgré la violence de très sanglants combats en 1940. Donc là, avant de venir aux circonstances, au contexte, à l'histoire, un tout petit peu de mémoire, peut-être, puisqu'après tout, nous sommes dans le centenaire et que c'est la fin de cette année du centenaire. La mémoire... Et peut-être ce qui nous dérange dans cette histoire, c'est-à-dire que quand on compare nos courages à ceux de nos ancêtres, on se dit qu'on n'y arriverait peut-être plus aussi bien. Est-ce que ce sacrifice des poilus de 14 n'est pas un tout petit peu trop grand, un tout petit peu trop noble pour nos tempéraments actuels? C'est peut-être ça le problème, non? On a un peu honte quelque part.
C'est exactement le problème, parce que ce sacrifice... qui est peu rappelé, nous pose une question, nous interpelle par-delà ce siècle. Est-ce que nous, en 2014, nous serions capables de mourir pour la patrie, mourir pour la France aujourd'hui?
Et surtout de mourir comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battraient, etc. Sans doute, on peut espérer. Mais là, c'est pas seulement se battre, c'est carrément souffrir une sorte de martyr comme peu de gens en ont souffert, sauf que là, c'est multiplié par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cas que tous ces gens-là se sacrifient en même temps, ça paraît complètement incroyable. Alors, comment expliquer cette espèce de force qui a habité les poilus de l'époque? D'abord, peut-être la ruralité, non? Beaucoup étaient des paysans, donc ils étaient habitués à vivre à la dure quand même.
Alors, ils vivaient à la dure. Il faut rappeler une chose essentielle. En 1914, la guerre était l'horizon quotidien des gens de l'époque, hein, que ce soit en Europe, dans le monde entier. Il y avait la guerre partout. La violence, la mort était partout. Les exécutions capitales avaient lieu sur les places public des villes encore, ça va être aboli uniquement en 1939, on assistait à des peines de mort, aux guillotines, etc. La société était violente en elle-même. Ça, c'est
elle était peut-être
fait.
Elle était plus dure. C'est-à-dire que les conditions de vie, ne serait-ce que les conditions matérielles, étaient quand même très rudes. Dans la plupart des fermes dont venaient les fameux poilus, alors il y avait aussi des citadins, bien sûr, mais ils étaient en petite minorité à l'époque. Dans la plupart de ces fermes, on n'avait pas l'eau chaude, il n'y avait même pas l'électricité. On était habitué à une vie qui peut-être préparait d'une certaine manière aux tranchées. Est-ce qu'on peut dire ça matériellement?
Ah, tout à fait. Le sens du confort aujourd'hui, notre qualité de vie extrême nous a beaucoup amoindri. C'est un fait, il faut le reconnaître. La civilisation a ses aspects positifs, mais ses aspects négatifs aussi. Et enfin, le patriotisme régnait dans les esprits.
Parce que ça faisait 30 ans qu'on ne vivait qu'avec cet horizon-là. Depuis la prise de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, les petits écoliers français, notamment, étaient élevés dans l'idée qu'un jour, il allait falloir reprendre ces territoires aux Allemands, aux poches, comme on disait.
La Troisième République a fait, et puis l'école de Jules Ferry faisait un travail absolument extraordinaire pour donner le sens de la patrie à nos aïeux. Et c'est vrai qu'à cet égard, ils l'ont fait un peu trop bien, puisque à cette époque, le mourir pour la patrie avait tout son sens. C'est vrai que ça s'inscrivait, je le rappelle, dans une longue tradition depuis deux millénaires, depuis le poète Horace qui disait « comme il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie ». Et Charles Péguy, à sa mesure, avait rappelé encore en 1914 « heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle ». Et aujourd'hui,
mystique un peu quelque part, non ?
C'était une nouvelle religion, c'est vrai, qui venait directement de la cité romaine. C'était le citoyen soldat doit se sacrifier pour la patrie. C'était comme ça avant et on l'a bien oublié.
Et ça à tous les stades de la hiérarchie, parce que il y a eu aussi, il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, une mode, si je puis dire, dans l'historiographie, de dire que les poilus, les soldats vraiment du bas de l'échelle, s'étaient très très bien battus, mais que plus on montait dans la hiérarchie militaire et plus les gens étaient des planqués, des arrivistes, etc. etc. Toutes les études montrent que il y a eu un sacrifice incroyable des officiers supérieurs et même de certains officiers généraux. Hein.
Et le troisième grand problème de la guerre de 14-18, c'est l'oubli total, effectivement, des officiers qui sont souvent des hauts gradés. Hein. On a vu des généraux de brigade mourir en pleine action. Et ça, c'est un fait essentiel, puisqu'aujourd'hui, le poilu a été vraiment le héros de la guerre de 14-18 et on oublie totalement les généraux. Et...
C'est ce qui a été l'inverse il y a 80 ans. Puisqu'au contraire, après la guerre, on va dire dans l'entre-deux-guerres, on ne parlait que des généraux qui étaient devenus maréchaux d'ailleurs.
Hein. C'était la tradition ancestrale, antique, hein, du triomphe du général vainqueur, de l'impérator, on disait encore. C'était le chef qui recevait tous les lauriers de la victoire à l'époque. Et là, c'est vrai que s'est produit avec cette guerre de 14 une immense rupture fondamentale, une mutation de l'héroïsme. Et aujourd'hui, c'est le poilu qui est le héros, à juste titre. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de faire des héros les déserteurs. Parce que les déserteurs, avec le fameux carré des 650 fusillés ouverts aux invalides sur ordre du président, c'est donner une prime à la lâcheté. Et la guerre, c'est une longue suite de crimes contre l'humanité où l'armée a besoin essentiellement, les militaires ont toujours été disciplinés et effectivement, on ne peut pas tourner le dos.
Ce que vous dites, c'est qu'on peut comprendre, on peut même excuser, mais on ne peut pas héroïser des comportements qui ne sont pas les comportements idéaux. Quoi.
Oui,
c'est ça,
et
hein.
C'est de l'anachronisme. C'est surtout ne pas comprendre les représentations mentales de nos aïeux, des gens qui vivaient à cette époque, qui ne fonctionnaient pas du tout comme nos représentations aujourd'hui.
Parmi les nouveautés de cette année du centenaire, j'ai remarqué qu'on parlait pas mal des prêtres dans les tranchées. Quel a été le rôle de la religion dans ce moral des troupes, si je puis dire ?
On parlait de l'école, bien sûr, de Jules Ferry, mais ensuite, c'est l'Église et le clergé qui ont eu un rôle essentiel dans la formation des esprits de l'époque, que ce soit effectivement pour les valeurs morales, bien sûr, pour le courage et aussi, effectivement, pour cet esprit de sacrifice et de don de soi.
Alors, il y avait peut-être aussi, disons-le, parce qu'on ne peut pas tout idéaliser, c'est notre différence, Dimitri Casali. Vous cherchez les lumières, moi j'ai tendance à mettre en avant les ombres, mais ça, c'est chacun son tempérament. Mmh. Il y avait peut-être une volonté de revanche aussi. Ça peut se comprendre, là encore, mais c'est pas forcément très brillant ni très glorieux, ça, mais il y avait la volonté d'effacer ce qui s'était passé en 1870, c'est-à-dire l'effondrement des armées françaises face aux Prussiens à l'époque.
Parfaitement. Là où je disais que l'école de Jules Ferry et de Lavisse avait trop bien fait son travail, c'est qu'il y avait cette volonté de vengeance, il y avait cette haine du Bosch qui avait été semée dans les esprits depuis 40 ans. Et ça, c'est un fait. Les soldats se battaient aussi, on n'en parle jamais, avec beaucoup de haine. Et ça, c'est un fait essentiel qu'il faut rappeler aussi qu'on n'entend jamais.
Oui, on parle plutôt des réveillons de fraternisation,
voilà,
c'est-à-dire des cas totalement exceptionnels.
Des matchs de football entre différentes armées.
Mais ça, c'était des cas très très exceptionnels qui n'avaient rien à voir avec la réalité sur le terrain. 1870, ça avait été l'effondrement du Second Empire. Alors, ce que je vous propose, c'est de feuilleter votre ouvrage. On ne pourra pas tout évoquer, parce que, évidemment, toutes les grandes pages de l'histoire de France sont non seulement explicitées, non seulement analysées, mais illustrées, parce que c'est un très bel album avec beaucoup de photos en couleur. Ça nous rappelle les beaux livres de notre enfance, tout ça. Mais revenons alors justement peut-être à ce grand homme effondré, si je puis dire, à cet aigle foudroyé qu'a été Napoléon III. En 1870, il était malade, on l'a traîné comme une sorte de pantin sur un champ de bataille où il n'a pas pu du tout dominer les choses. Et c'est l'effondrement du Second Empire. Mais avant, il y avait eu 20 ans de prospérité pour la France, il faut le dire.
Il faut rappeler, effectivement, moi j'aime beaucoup Napoléon III.
Vous nous dites carrément que c'est un empereur socialiste, vous.
C'est un des personnages, c'est peut-être le personnage de toute l'histoire de France qui est totalement ignoré, édulcoré et bafoué du fait même de la Troisième République, ça s'entend, mais jusqu'aujourd'hui même, cela continue et c'est malheureux parce que c'est le personnage de l'histoire de France qui a permis le décollage économique de la France. Il faut bien le dire, si la France est devenue si riche aussi, en partie, c'est la prospérité économique bâtie, construite patiemment par cet empereur qui était très concerné, qui avait le souci effectivement des classes les plus modestes.
Il suffit de relire Zola, hein. Donc le grand commerce, la banque, les chemins de fer, l'expansion tous azimuts, hein. Tout ça c'est le Second Empire incontestablement, mais avec aussi tous les travers que ça peut supposer. Bien entendu, c'est pas une époque qui n'est que aimable, loin de là. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est l'œuvre sociale de Napoléon III. Je vous y amène parce que c'est vous-même qui en parlez, c'est quand même assez étonnant ça.
J'insiste beaucoup sur l'œuvre sociale de Napoléon III qui est totalement méconnu aujourd'hui pour deux raisons. C'est d'abord qu'il avait reçu une éducation par Lebas, un ancien, le fils du conventionnel très très révolutionnaire, et en tant que Bonaparte aussi il avait été concerné, sensibilisé au peuple, aux besoins du peuple, hein, c'est ce qui définit le bonapartisme, gouverner pour la volonté des autres. Et ensuite effectivement il avait écrit l'extinction du paupiérisme, qui est un manifeste purement socialiste, et qui, quand il était emprisonné au fort de Ham, il avait reçu les plus grands socialistes de l'époque, que ce soit Proudhon, Fourier, et on voit bien qu'il y avait cette volonté d'améliorer le sort des plus pauvres, et il a fait.
Une vraie vision du progrès.
Il l'a fait, puisqu'en 1864, il a accordé le droit de grève aux ouvriers, il faut le rappeler, on le rappelle jamais, et ensuite, il est à l'origine des premières caisses de mutualisation de la retraite et de l'assurance maladie que lui a copié Bismarck quand il était justement diplomate à Paris, et il va le ramener en Prusse à la même époque.
Alors un demi-siècle avant Napoléon III, il y avait eu Napoléon Ier, c'est votre héros à vous, Dimitri Casali. Eh bien, pour une fois, nous n'en parlerons pas. On va se sauter à pieds joints sur Napoléon Ier et remonter jusqu'au règne de Louis XVI.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire valoir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. Face au sarrasin d'Espagne, en voyant son olifant, les soldats de Charlemagne disaient à Roland. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est notoire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. La glorieuse histoire de France est truffée d'assassinats, de massacres et de violences et autres coups d'État. Après tout, quand on y pense, Bonaparte et Attila ont plus de mort sur la conscience que Landru et Borgia.
Yves Dutheil sur Europe 1 avec un extrait de son titre « Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte ». Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi de l'histoire de France avec votre invité Dimitri Casali, historien et directeur de collection pour la presse, spécialiste de l'enseignement de l'histoire, auteur de « L'histoire de France, de l'ombre à la lumière » aux éditions Flammarion.
Il y a des ouvrages qu'il faut savoir lire entre les lignes. Votre livre, il faut savoir le lire aussi dans les marges, Dimitri Casali. J'aime bien les surtitres, notamment pour parler de l'exécution du roi Louis XVI, « Martyr d'un roi courageux », dites-vous. Vous parlez d'anecdotes immorales.
Oui, pour moi, tout ce livre résume à la fois ma fascination pour l'histoire de France. Je suis un amoureux de l'histoire de France avec toute sa complexité, c'est-à-dire sa face lumineuse et sa face sombre. Et j'ai voulu attirer sur chaque grand personnage, effectivement, l'aspect positif et l'aspect négatif. Et Louis XVI illustre parfaitement cet exemple, puisque nous avons peut-être le roi le plus savant de tous nos rois. C'était vraiment un véritable scientifique avec une formation intellectuelle incroyable. Et c'est vrai que ce roi, aussi intelligent fut-il, a commis malheureusement de nombreuses erreurs.
Oui, il a commis toutes sortes d'erreurs politiques, c'est-à-dire qu'il était tout sauf un politique. C'est un peu embêtant pour un roi en période de révolution, évidemment.
C'est fascinant, Louis XVI, parce qu'on se demande, ma défense générale c'est de l'histoire, c'est que l'histoire est faite par les hommes et pour les hommes, hein, d'après moi. Et là, on a l'exemple typique d'un roi bon, qui a le souci aussi de faire le bien dans son royaume, qui est intelligent et tout, mais qui est dépassé par des événements hors du commun, hein, qui sont la Révolution française, et qui vont broyer cet homme aussi aussi bon est-il. Et ça, je pose juste la question, justement, est-ce qu'un autre roi, peut-être son ancêtre Louis XIV, aurait peut-être jugulé la Révolution.
Ou même simplement son grand-père Louis XV.
Louis XV, il aurait pu être moins indécis. Le problème de Louis XVI, c'est ses tergiversations. C'est toujours son indécision. Et malheureusement, ça va le mener à l'échafaud.
Est-ce que cette indécision n'est pas dictée par le souci presque obsessionnel chez lui de ne surtout jamais faire couler le sang de son peuple? Ce qui, dans des périodes de révolte interne, évidemment, conduit forcément à une forme d'anarchie. Il y est allé tout droit, lui, dans son cas.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'il faut montrer que, comme je disais tout à l'heure, que l'histoire est une longue suite de crimes et de crimes contre l'humanité en particulier aussi. Et là, on voit bien ce refus de verser le sang de son peuple qu'il aime tant va le mener tout droit à la catastrophe. Et c'est un exemple à donner à nos étudiants en histoire aujourd'hui pour comprendre toute la complexité du pouvoir. Et après, pour citer justement son successeur Napoléon Ier, lui aura beaucoup moins d'état d'âme, malheureusement, aussi dans un sens.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la différence, c'est que lui était un politique au sens le plus élevé du terme, un très très grand politique, qui sont un peu aux antipodes. On voit le jour où Louis XVI a été obligé de coiffer le bonnet rouge, hein, il est sur le balcon de l'hôtel de ville, et on voit le tout petit, dit-on, est-ce que c'est vrai ça? C'est peut-être apocryphe cette histoire, mais on raconte que le jeune Bonaparte se trouvait ce jour-là à Paris, et qu'il aurait dit quel couillon, en fait, en parlant du roi.
Absolument, non, il était présent dans la foule, quel couillon, et on voit bien que lui ne serait pas embarrassé de bons sentiments et qu'il aurait fait donner, d'ailleurs il rapporte, avec l'artillerie, il aurait balayé toute cette populace en moins de quelques heures, ça aurait été terminé.
Vous nous avez dit que Louis XVI était un intellectuel, si l'on emploie cet anachronisme, c'était un amoureux notamment de la cartographie, de la géographie, etc. Vous consacrez tout un paragraphe à l'expédition de la Pérouse.
C'est l'aspect qui est passionnant aussi chez Louis XVI, c'est cette ouverture au reste du monde, cette fascination pour la géographie et pour la cartographie marine, justement, avec tout cet aspect maritime dont il est extrêmement conscient. Et effectivement, grâce à lui, la marine française va redevenir puissante et vaincre la Royal Navy pendant la guerre d'indépendance américaine. Il faut le dire, ce fut une belle victoire de la marine française, ce qui est rare dans notre histoire maritime, peut-être les seules grandes victoires. Elle les doit à Louis XVI et ensuite il a vraiment donné un souffle aux grandes découvertes, en particulier avec la Pérouse, qui est une expédition absolument fascinante à tout point de vue, et chaque qui se renseignait, il était extrêmement curieux de l'avancée de l'expédition. Et c'est vrai qu'il y a cette anecdote incroyable, paraît-il, qui n'est pas à vérifier mais que j'aime à citer quand même, c'est que le jour de son exécution, le matin même, il a demandé des nouvelles de monsieur de la Pérouse pour savoir où s'en était.
Alors, on a le droit de ne pas être toujours d'accord avec vous, Dimitri Casali, et vous montrez par exemple dans un beau chapitre sur l'encyclopédie, sur cet extraordinaire bouillonnement d'idées qui a été celui du XVIIIe siècle, vous nous montrez Voltaire, vous nous montrez Diderot, et puis on arrive sur le chapitre Louis XVI et vous dites Louis XVI, l'homme des Lumières. Est-ce qu'un homme bigot, dévot, totalement, intégralement inféodé à la religion et aux anciens principes comme pouvait l'être Louis XVI, est un homme des Lumières? Vous avouerez que c'est un peu bizarre comme appellation. C'est le besoin de provoquer qui vous le fait ainsi.
Non, c'est vrai qu'il avait apprécié Montesquieu, il avait lu Montesquieu, qu'il avait beaucoup apprécié, mais c'est vrai qu'il appréciait beaucoup moins Voltaire et Rousseau, ça c'est, vous avez tout à fait raison.
Il avait été élevé, on peut dire, même si lui était un esprit éclairé, ça c'est autre chose, mais il avait été élevé, lui, contre les Lumières, littéralement.
Bien sûr, il se devait de préserver la monarchie de droit divin qu'il avait reçue de ses ancêtres. Et c'est là aussi ce qu'il est vraiment passionnant, parce qu'il sent bien que son époque lui échappe, que la mutation, la transformation de sa société est telle qu'il ne pourra rien faire devant ces forces profondes qui sont en train de se profiler. Mais il a essayé, et puis il faut dire que la société est totalement bloquée. Il vit à une époque aussi, bien sûr, il y a un budget, un déficit budgétaire abyssal qui pourrait nous rappeler la situation actuelle de la France aussi. Et est-ce que des hommes sont capables de redresser la situation? Je pose encore la question.
Alors, ça c'est
notre histoire.
Ça renverse les perspectives, si je puis dire. On a sauté à pieds joints par-dessus Napoléon, donc je vous propose d'en faire autant avec Louis XIV. Louis XIV et Napoléon, avec Jeanne d'Arc, on va dire que ce sont les trois grands héros de l'histoire de France. Donc ceux-là, on les connaît un petit peu, quoique. Pour en venir, évidemment, à celui qui a fait l'objet, moi, de mon dernier livre, et je me suis attiré un certain nombre de critiques. D'ailleurs, vous ne partagez pas mes points de vue, j'ai pu le constater, sur François Ier, qui pour moi est un mauvais roi. Vous nous le présenter plutôt comme une sorte de quasi de conquérant, en quelque sorte.
Non, mais je vois très bien, effectivement, l'aspect guerrier, et on peut lui reprocher, il a été énormément défait, il a connu énormément de défaites, on rappelle. Et ce roi guerrier est extrêmement critiquable par cet aspect-là. Ça, je suis d'accord avec vous là, sur ce point. Mais en revanche, il faut reconnaître, pour moi, il y a deux choses fondamentales. C'est effectivement l'édit de Villers-Cotterêts de 1539 qui impose le français par la force. Hein, c'est ce côté impératif qui me séduit. C'est vrai que c'est le premier roi, le premier monarque absolu qui va donner son unité à la France. Si la France est devenue justement la première puissance mondiale de Rocroi, justement du 1643 jusqu'en 1815, c'est grâce à des mesures qui ont unifié la France, et pas simplement grâce à François Ier, mais donner cette unité incroyable à cette agglomération de peuples différents, disait Mirabeau, ça a été vraiment un travail absolument hors du commun que peu de pays ont connu. Et c'est vrai que j'insiste là-dessus, sur, on a une histoire absolument incroyable par rapport aux autres pays du monde, c'est grâce à des rois. François Ier, bien sûr, Louis XI et Charles VIII auparavant, ouais. Oui. Et Charles VII. Ouais.
Dans le cas de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, donc d'août 1539, son objectif n'était pas du tout d'imposer le français. Au départ, il y avait 192 articles, c'est un article sur 192. Et si l'on demande aux clercs de rédiger désormais leurs écrits en langue vulgaire française, c'est pour limiter et désencombrer les juridictions et limiter tous les procès qui étaient faits sur l'interprétation du latin, parce que c'était devenu la mode depuis presque un siècle. N'importe quel contrat, par exemple, était attaqué parce qu'on disait, mais attention, la traduction latine n'est pas la bonne, etc. À partir du moment où c'est écrit en bon français, du quotidien, on pouvait moins attaquer. Bon, bref, n'entrons peut-être pas dans ce genre de détails. Et d'ailleurs, ce qui est beau dans ce genre de très grandes fresques comme celle que vous brossez, c'est que justement, on ne s'attarde pas, on ne s'accroche pas aux petits détails, on donne les grandes lignes de force, les grands éléments de compréhension. On innerve en quelque sorte l'histoire nationale à travers ses plus importants éléments, disons. Il y a un personnage, ça m'a fait grand plaisir, et un personnage qu'on a complètement oublié aujourd'hui. J'avais fait ce test un peu malheureux l'année dernière dans les bureaux d'Europe 1. J'avais demandé aux gens qui étaient du Guesclin. Je me suis rendu compte avec effroi que personne ne pouvait répondre. Eh bien, vous le réhabilitez.
Totalement. Je pense que c'est un personnage important de l'histoire de France, à plusieurs titres, hein, déjà pour son rôle historique. Mais d'abord, je voudrais insister sur son rôle, sur sa... De personnages qui transmet des valeurs morales à nos élèves, à nos enfants, qui avaient bien compris Ernest Lavisse, justement, d'où l'importance de ces grands personnages mis en avant dans nos manuels scolaires qui sont maintenant totalement occultés, puisqu'aujourd'hui le culte des grands personnages est associé à un culte rétrograde de la personnalité. Il faut absolument pas glorifier nos grands hommes. Et du Guesclin est l'exemple type. C'est-à-dire que ce petit breton extrêmement laid, il va devenir un connétable des armées royales, et grâce à lui donc presque chasser les Anglais du pays, il va presque y réussir, mais surtout il transmet des valeurs morales comme effectivement bien sûr le courage et la loyauté à son roi, mais aussi de par sa devise, quelque chose de très simple, sa devise est « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Moi, je me souviens toujours, quand j'avais appris ça à l'âge de 12-13 ans, j'avais trouvé cette devise absolument fascinante.
C'est tellement vrai, ça.
Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la télé-réalité, où justement,
la beauté,
on donne la beauté en exemple, en exergue. Et là, ça nous permet de relativiser qu'un personnage aussi laid que du Guesclin ait pu faire des grandes choses. Et surtout, il a épousé la plus belle femme du royaume, Tiphaine de Ragadel.
Il a osé.
Quelle récompense.
Quel courage, on peut dire.
Pour le plus laid.
Eh bien, bravo. On gardera cette devise. Le courage donne ce que la beauté refuse. Merci beaucoup, Dimitri Casali. Votre très beau, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est un album, c'est un manuel, c'est un précis d'histoire de France, sous-titré De l'ombre à la lumière et publié chez Flammarion. Et puis, je voulais citer également les cartes de notre enfance, parce que c'est dans le même registre, un peu. Vous savez, ce sont ces grandes cartes Vidal Lablache qu'on avait sous les yeux quand on était à l'école. C'est publié chez Armand Collin sous la direction de Jacques Schebling et Caroline Leclerc. Merci beaucoup. J'ai remarqué que la première page de l'Histoire de France, pour vous, ça n'est pas Alésia, c'est le baptême de Clovis. Eh bien, ça nous fait au moins un débat que nous n'aurons pas aujourd'hui.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent, fidèle auditeur de Bruxelles. Laurent aimerait connaître l'origine de l'expression « tenir le haut du pavé ».
Alors cette expression remonte au Moyen Âge, figurez-vous. En effet, à cette époque, les rues étaient pavées. On n'avait pas donc de trottoir puisqu'il y avait une sorte de caniveau qui passait au milieu. La chaussée remontait, si vous voulez, vers les façades des maisons pour laisser écouler au centre de la chaussée les eaux usées. Et encore, je suis poli. Il n'y avait donc pas évidemment de système d'égout et les passants avaient pris l'habitude de marcher le long des maisons sur la partie la plus haute de la rue, donc le plus loin possible des éjections et des ordures. Évidemment, on appelait ça tenir le haut du pavé et c'était réservé aux gens les plus importants, tout simplement. Et comme les rues étaient très étroites, tout le monde, bien sûr, ne pouvait pas marcher sur ce haut du pavé. Donc, en fonction de l'importance de la personne que vous rencontriez, vous lui laissiez ou non le haut du pavé. D'ailleurs, tout l'usage de la politesse s'est développé autour de cette notion et autour de cet endroit, de cette position du haut du pavé. Les personnes les plus pauvres, vous avez bien compris, passaient plutôt au centre, elles marchaient dans le bas du pavé, etc. Quand je dis les plus pauvres, c'est d'ailleurs peut-être pas le terme qui convient. Je devrais dire les plus basses, puisqu'on est dans une société où la richesse n'était pas du tout comme aujourd'hui un signe d'importance. C'était plutôt les titres, la naissance, etc. qui comptaient à cette époque-là. Alors, cette pratique a été évoquée par exemple par Antoine de Courtin dans son traité de la civilité qui date de la seconde moitié du XVIIe siècle. Je le lis. Si nous sommes obligés d'aller dans les rues à côté de ces personnes qualifiées, il faut leur laisser le haut du pavé et observer de ne se tenir côte à côte, mais un peu sur le derrière, si ce n'est quand elles nous parlent et qu'il faut répondre, et alors il faut avoir la tête nue. Sur quoi il est bon d'engager ceux qui ont droit de souffrir, qu'on leur cède toujours le haut du pavé, d'avoir un peu de considération pour ceux qui leur rendent cet honneur, que si on rencontre dans les rues tête à tête une personne de qualité, il faut prendre le bas du pavé où est le ruisseau. Et oui, c'est ainsi. Vous avez bien vu qu'on parle non pas d'une personne fortunée, mais bien, pour le coup, d'une personne de qualité.